C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
Grosse nouvelle ce matin dans le journal de Montréal. C'est effectif depuis hier, une hausse des coûts des tarifs d'électricité. Les prix de l'électricité qui ont monté. Sommairement, ce que ça donne, c'est plafonné là, à 3% maximum pour les années jusqu'en 2025. Donc, depuis 2023, 2024, 2025, ces trois années-là, le gouvernement de la CAQ a pris l'engagement que les tarifs d'électricité ne monteraient pas plus que 3%, alors que dans les faits, il aurait dû monter de 6,8 en 2022 et de 3,9% en 2023 pour s'accorder au taux d'inflation qu'il y a à l'inflation qu'on a. Donc, le gouvernement a décidé de prémunir. Mais même à ça, les Québécois sont prêts à changer leurs habitudes. C'est ce qui sort de ce sondage-là. Plutôt que de payer plus cher, eux autres, ils disent, hey man, même si le changement pour une famille moyenne, c'est genre 5,82 $, presque 6 $ par mois de plus. Ouais. À la fin de l'année, c'est 72 $. On comprend qu'il y a des ristournes qui sont données par Hydro-Québec, mais même à ça, les gens sont prêts, surprenamment, moi je suis surpris de ça, à faire des sacrifices peut-être de leur confort ou avant le confort, sont prêts à 64% à changer leurs habitudes. Et les plus réfractaires, par exemple, c'est 24% des gens qui disent, moi là, je ne veux pas prendre une douche de 4 à 5 minutes. Il y a 46% des gens qui n'ont pas de problème. Il y en a 23 qui disent, je le fais déjà, mais il y a un 24, là, un petit noyau dur. Non, il n'est pas question que je me prive de ma longue douche chaude.
Mais ça va être dur, changer les habitudes de vie pour vrai, là.
Ben, c'est-à-dire que...
Non, mais c'est ancré en nous, le confort nord-américain.
C'est dur, Valérie.
Parce qu'en Europe, c'est une toute autre affaire.
Ben absolument. Mais ce que je veux dire, c'est dur si tu dis, je passe de 25 degrés puis je le mets à 17, tu comprends? Mais moi, je pense que dans la vie, si tu passes de 20 à 19, tu le sentiras pas.
Mais si t'es à 20, c'est parce que t'as déjà une réflexion par rapport à ta consommation d'électricité.
Peu importe,
à 25, tu y penses pas.
Mais peu importe d'où tu pars, en fait. Tu fais juste le baisser d'un degré. T'es déjà dans une économie. Mettons 25 à 24, t'as déjà diminué ta consommation. Ouais. Après ça, ton chauffe-eau, là, on le met à 180, mettons, mais il pourrait être à 140, effectivement, puis être moins en commande. Mais
moi, mon sous-sol, il est à 33 en tout temps. Je veux que ça soit chaud, puis la chaleur monte.
C'est pas un plancher chaud. C'est un toit,
on est bien.
Non, mais pour vrai, on a l'impression que le sacrifice, c'est qu'au lieu qu'il fasse 25, il va faire 12 dans la maison, pas nécessairement. Et est-ce que vous êtes prête à consentir à des sacrifices? En fait, je revire la question. Qu'est-ce que vous refusez de faire comme compromis ou que vous ne serez pas capable de faire pour économiser sur votre facture d'électricité, la baisser, cette facture-là? Je suis curieux de vous entendre pour vrai. Le 790, c'est quoi? C'est le téléphone pour nous joindre. Le texto 96.9. Il y a des affaires. Moi, une lumière allumée d'une pièce qui a personne, je viens fou furieux. Je suis pire que mon père.
Ah oui.
Encore aujourd'hui, même s'il y a des LEDs partout et que ça coûte moins cher.
Moi, je refuse de faire la vaisselle à la main.
Ah, moi aussi.
Pour vrai?
C'est un lave-vaisselle.
Je pars le lave-vaisselle pour une assiette.
Hey, man. J'ai envie de regarder sur Internet, là, opter pour un programme économique, programmer les lavages en heure creuse, éviter les cycles de pré-lavage. Moi, tout faire ça. Mais c'est pas vrai que je vais laver à main.
Des comiques, de retour après ceci. Debout les
comiques! 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Infoman et le bye-bye qui ont déjà en masse de jus avec une seule nouvelle depuis le début de l'année 2024. L'éclipse solaire du 8 avril prochain. Ça va être quelques sketchs, j'ai l'impression. C'est dommage qu'il y ait autant de bruit négatif autour d'un événement qu'on devrait, je crois, célébrer. Et on en jase avec quelqu'un pour qui l'éclipse, c'est une occasion d'éduquer à la science. Un genre de Super Bowl pour elle. Marie-Ève No, astrophysicienne qui est en ligne. Salut Marie-Ève.
Allô.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pourquoi ce qu'on va vivre la semaine prochaine avec l'éclipse, c'est si excitant, puis pas juste pour une astrophysicienne, là, pour tout le monde?
Ben oui, je trouve que ton analogie du Super Bowl est vraiment bonne. Là. C'est vraiment un événement. Puis pour une fois que l'astronomie, c'est l'événement rassembleur, tu sais, moi je capote. C'est
vraiment... Ben oui.
Mais tu sais, aussi, c'est un événement qui est spécial. Tu sais, c'est pas juste comme un happening. Là, tu sais, il se passe quelque chose dans le ciel qui est spécial. La Lune vient se placer devant le Soleil puis elle le cache. Puis, tu sais, le soleil, ben, il est très, très, très brillant, hein. Fait que quand la lune vient devant, ben, à un moment donné, il va commencer à faire noir. Puis, pour les chanceux, là, qui sont dans ce qu'on appelle la bande de totalité, c'est-à-dire ceux qui sont exactement au bon endroit, au bon moment pour se retrouver pile poil, bien aligné, là, à lune, soleil, ben, il va y avoir un moment où il va faire très noir. La couronne solaire va apparaître, une espèce de partie du soleil qu'on voit pas d'habitude. C'est un peu comme les rayons du soleil qu'on dessinait quand on était jeune. En fait, ça ressemble pas vraiment à ça. Là. C'est comme blanc puis diffus partout autour. Il paraît que c'est bien spécial avec un gros point noir au milieu. C'est la lune, dans le fond. Va faire noir, on va voir des étoiles peut-être en plein jour, les planètes les plus brillantes, coucher de soleil sur 360 degrés, vous avez la chance d'avoir un horizon dégagé, fait que c'est quand même spécial, puis tu sais, c'est pas juste les astronomes qui décrivent ça comme un moment important.
Mais non!
Il y a de personnes qui l'ont vécu puis qui étaient comme, waouh, tu sais, c'est carrément transformateur.
Ben, c'est clair, puis c'est la rareté de l'événement qui fait qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Le ciel va être dégagé à date, la météo est bonne. Moi, il y a encore peu de temps, j'étais certain que regarder une éclipse, c'était dangereux. Mais regarder une éclipse, c'est pas plus dangereux relativement que regarder le soleil, on s'entend, là.
Exactement, c'est tout à fait vrai. Dans le fond, si on veut, le seul risque qui existe à propos d'une éclipse, c'est de s'abîmer les yeux. Puis s'abîmer les yeux, c'est si on fixe longuement le soleil pendant l'éclipse. Là, par exemple, si on essaye de regarder l'éclipse à l'œil nu, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Faut pas faire ça. Si on veut regarder directement l'éclipse, ça prend les fameuses petites lunettes d'éclipse là, dont on parle tant dans les dernières semaines, avec la certification. Là, c'est pas pantoute des lunettes fumées. Là, c'est vraiment des lunettes qui sont faites spécialement pour ça, à peu près 1000 fois plus opaques que des lunettes fumées. Fait que tu vois rien, en fait, sauf le soleil quand tu regardes à travers. Mais ça te permet de le regarder d'une manière sécuritaire, là, puis en fait, ça élimine pas mal tous les risques. Puis tu sais, juste pour dire, là, les risques sont faibles. Là. En 2007, on a eu une éclipse totale là, aux États-Unis, puis moins de 100 cas de blessures qui ont été dans la majorité du temps temporaire sur comme 215 millions de personnes.
Parce que Marie-Ève, la vérité, c'est que moi, j'ai une ado à la maison et elle fait beaucoup d'anxiété par rapport à l'éclipse. Puis je pense que c'est pas la seule. Il y a tellement de messages négatifs qui circulent. On dirait que ça leur fait peur. Toi, t'es astrophysicienne, là, c'est ton champ d'expertise. On leur dit quoi à ces gens-là pour qui l'éclipse, c'est pas le fun pantoute?
Oui, non seulement je suis astrophysicienne, mais je suis très anxieuse de nature. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour votre fille et pour les personnes qui vivent l'anxiété autour de ça. Mais je veux juste les rassurer. Oui. Les rassurer, les dangers. Tu sais, c'est important de le dire parce que personne ne veut se retrouver avec un point noir dans sa vision demain matin parce qu'il a regardé l'éclipse. Mais c'est pas mal le seul risque, là, tu sais. Pour vrai, là, rendu là, on est rendu dans des risques presque anecdotiques. C'est important d'en parler pour être sûr que personne ne se blesse, mais c'est tout, tu sais. Puis contrairement à d'autres événements qui sont aussi rares puis spectaculaires, tu sais, je pense, mettons, à des ouragans ou des tornades ou des inondations, cet événement-là, c'est juste du beau. Et puis, on l'a vu venir, là. On est capable ça des centaines d'années à l'avance. Donc, il n'y a pas rien à craindre.
Voir des points noirs, c'est ce que je vois à chaque fois que j'attache mes souliers. C'est pas super. ma blonde est enseignante et les consignes qu'ils ont reçues ont aucun sens. Et je m'explique, là. Fermer les rideaux, tourner les meubles dos aux fenêtres, utiliser les escaliers sans fenêtres, mettre les lunettes dans les couloirs avec fenêtres, interdire aux enfants de circuler dans l'école sans professeur. Moi, ma question, là, est-ce que vous avez été consulté pour mettre des mesures en place comme ça?
Non. Merci. Non, vraiment pas. Puis ça n'aurait pas eu l'air de ça si on avait été consulté. Moi, ça me fait bouillonner un petit peu à l'intérieur quand j'entends des choses comme ça parce que, tu sais, les jeunes, là, même les jeunes, tu sais, avec différents troubles d'opposition, TDAH, name it, ils fixent pas le soleil par une belle journée normale, encore moins là, de leur classe. Là. Les bambins là, dans les CPE, là, ils s'amusent tous les jours au soleil, ils se brûlent pas les yeux. Il aurait fallu un petit peu d'éducation pour dire entre 3h15 et 3h45, il va faire plus sombre. Fixe pas plus le soleil que d'habitude.
C'est
si
ça.
Pas l'équipement.
On peut être exposé sans le fixer. Il n'y en a aucun problème. Hier, on se demandait si on pouvait regarder l'éclipse à travers notre téléphone cellulaire, Marie-Ève. Est-ce que ça se peut, ça?
Ben, c'est parce que le problème, c'est que votre téléphone cellulaire, s'il n'y a pas la paire de lunettes sur le fil, ben, probablement, vous pourriez l'abîmer.
Il va se brûler lui-même.
Il va se brûler lui-même, mais vous verrez rien. Vous allez voir un gros flash. Faites-le aujourd'hui, mettez votre téléphone vers le soleil. Ben, faites attention, pas vous brûler. C'est ça le problème, c'est que c'est bien dur de mettre son téléphone entre vous et le soleil, de regarder dans votre téléphone sans avoir les rayons du soleil qui vous rendent les yeux. Puis votre téléphone, il va vous montrer un point éblouissant, là. Il va pas vous montrer. Peut-être dans les derniers moments, à un moment donné, il va être capable, mais je pense.
OK, parfait. Donc, mauvais flash.
Je termine avec ça, Marie-Ève, mais c'est parce que c'est une question qui revient de la part de Julie et Jonathan, Alex, Frank, qui viennent de l'écrire. Est-ce qu'on peut regarder l'éclipse avec un casque à souder?
La réponse, c'est oui si on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu sais, des soudeurs, ils savent c'est quoi les casques de grade 13, 14. Ça prend minimum ça. 12, ça ferait, mais c'est éblouissant. Pour la plupart des gens, ils aiment pas ça. Fait que si vous savez ce que vous faites, oui, grade 13, 14, c'est pas sûr qu'on retrouve la plupart du temps. Donc, si vous avez juste un masque à souder qui traîne, prenez pas ça. Ça va pas couper assez de lumière, puis vous pourriez vous ramasser avec des blessures. Les petites lunettes, là, il y en a encore plein dans le commerce. Ça coûte pas trop cher, ouais. Ça donne un meilleur spectacle en plus. Ça.
OK, wow. Formidable.
Marie-Ève, pour vrai, si à, là, si à chaque fois qu'on a parlé de l'éclipse, c'est toi qui nous avais répondu, personne n'aurait capoté. Merci tellement d'avoir pris du temps pour nous autres ce matin. Marie-Ève Nau, astrophysicienne. Plaisir. Bonne journée à toi, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment le fun. Ben écoute, merci. On peut le vivre sereinement. Et je le dis, la météo, ce que je regarde à date, à Montréal, on n'est pas dans la zone idéale. Ça va durer à peu près une minute et demie, selon ce que je lisais.
Ouais.
Si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, à date, lundi, c'est 13 degrés, plein soleil. Donc, on va avoir quand même la chance d'assister au spectacle à distance.
Et il y a Monique qui pose la question, l'éclipse, ça se passe à quelle heure? Fait que l'éclipse solaire totale, c'est entre 15h25 et 15h40, lundi prochain, donc le 8 avril.
T'es comique? De retour dans un instant.
Debout, les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande. Debout.
De plus en plus radiophonique à part de ça, la semaine dernière, il y a eu un bon test. On n'était pas là en studio avec lui. On a fait ça à distance. Salut, PC.
Good morning, mon cher PC.
PC, tu vas nous raconter comment des bains froids ont fini par affecter la cote de crédit d'un gars assez pour qu'il doive faire une consolidation de dette.
Je vois zéro le lien.
Ben,
zéro.
On aura tout vu. Honnêtement, on a un client qui nous avait contacté parce qu'il voulait comme refinancer puis prendre l'équité de sa maison pour venir justement venir comme mettre des dettes tout ensemble parce qu'il était plus capable de payer. Mais du coup, j'ai pas porté un attention particulière à sa cote de crédit, mais j'ai demandé mais c'est quoi qu'il faisait, etc. Puis quand ça me dit qu'il est travailleur autonome, il a moins travaillé l'année dernière. Fait que je commence à y demander pourquoi. Puis il dit qu'il s'est ramassé à l'hôpital. Mais je dis pourquoi tu t'es ramassé à l'hôpital? Qu'est-ce qui a fait que tu as accumulé des dettes? Il dit ben oui, puis mon chum de gars, on n'est pas très, très brillant. Puis il dit on s'est mis à faire mais des bains de glace. Mais il dit nous autres, on est deux personnes très obsessives. Fait qu'il dit on a commencé par faire une minute, deux minutes, trois minutes. Mais il dit un moment donné, nous autres, on s'est ramassé à 15 minutes. Puis là, on voulait voir comme jusqu'à combien de temps qu'on peut attendre. Je suis comme, c'est sûr, c'est une joke. Puis là, il dit, grosso modo, ce qui s'est passé, que j'ai su par après, parce qu'il dit, moi, mais c'est la seule affaire que je me rappelle, c'est que j'étais dans mon bain de glace, je me suis réveillé, puis j'étais à l'hôpital.
Oh mon Dieu!
Impossible! Puis dans le fond, il dit que c'est parce qu'il y avait même des problèmes de cœur qui n'étaient pas nécessairement au courant qu'il y avait. Puis là, mais il est tombé comme en hypothermie, puis il aurait fait une genre de crise de cœur. Là, j'étais comme, c'est impossible! Fait que puis là, c'est pour ça que ta cote de crédit, je pense qu'elle était comme fin, comme 500, style 582. Là, fait que pour le monde qui ne savent pas, c'est très mauvais. Là. Je fais comme. Fait que ça, c'est à cause de. Mais je fais, c'est quoi la relation entre genre la genre de crise de cœur que t'as faite et le fait que t'as pas une bonne carte de crédit? Il dit, ben, c'est parce que moi, je suis travailleur autonome, mais il dit, c'est un service que j'offre. Fait qu'il dit, moi, mais j'ai pas d'employé, rien. Fait qu'il dit, si je suis malade, l'argent rentre pas, je travaille pas. Ben fait qu'il dit, pendant presque un an, le temps que je m'y remette, puis je recommence à comme travailler parce qu'il fallait que je sois comme en travail très léger. Et il dit, ben, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de dettes. Puis là, il dit, je suis tombé sur, genre, sur une de tes vidéos que ça parle de consolidation de dettes. Mais il dit, moi, je pensais que c'était comme faire une faillite, une proposition. Je pensais pas que ça pouvait peut-être même aider. Genre, mais ma cote de crédit, puis on dirait que psychologiquement parlant, je voulais pas faire ça. Je voulais pas me dire, mais je mets des cartes, puis je mets des marques.
C'était comme une défaite, mettons, ou un échec.
Il voyait un peu d'une façon négative. Fait que ça a fait que on a été capable de venir faire le refinancement parce qu'il y avait quand même une bonne équité sur la maison, mais il a fallu qu'on aille avec des prêteurs plus hauts taux d'intérêt parce que sa cote était rendue trop basse.
Ouais.
Il s'aurait pris un petit peu d'avance, peut-être ça aurait été correct, là, mais
la raison pourquoi tu as dû faire ça dans ce cas-là est cocasse, mais c'est une réalité qui touche plus de gens.
Mais
travailleur autonome qui est privé de revenus momentanément. Pas juste la glace, là, mais tu sais, on comprend que ça, mais t'as raison de le dire. Je connais pas ça, j'ai l'impression que c'est comme un échec d'aller faire c'est l'étape d'avant, faire faillite.
C'est que ça sonne très négatif. Quand mais on ça l'est compte, pas, ça au peut contraire. Aider tellement de monde.
Ouais, parce que, tu sais, je trouve que c'est encore peu, mettons, de soit aller faire une proposition ou faillite. Mais, tu sais, encore là, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais justement, comme une consolidation de dettes, ce qu'il faut faire attention, c'est juste de pas en faire plusieurs. Parce que, tu sais, ce que ça fait, c'est que ça fait disparaître toutes tes dettes. Fait que, techniquement, parce qu'ils sont toutes comme réunis genre dans ton
hypothèque. Dans un paiement.
Le lendemain, tu peux aller te rechercher des dettes. Fait que c'est d'essayer de comprendre peut-être pourquoi que je me suis ramassé dans cette situation-là. Mais tu sais, comme lui, on le voit clairement que c'est une situation assez isolée, assez unique. Mettons qu'il y a des chances que ça se reproduise.
Vraiment.
Mettons que ça arrive, ça. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est travailleur autonome, qui n'a pas la possibilité d'avoir autant de revenus, qui accumule des dettes. Est-ce que quand on va voir un courtier, on est capable de non seulement d'expliquer cette situation-là, mais toi, quand tu vas vendre le point aux institutions financières, est-ce que ça a du poids? poids dans la balance de dire, hey, c'est vraiment une situation isolée, là, il a été malade ou tu sais.
Ouais, exact. Puis même qu'en fait, t'as pas vraiment le choix de venir comme l'expliquer puis de bien comme l'expliquer parce que tu n'as du monde que c'est dans la situation actuelle, mais d'autres que c'est dans une situation passée que la cote de crédit augmente. Mais tu vois, exemple, qu'en 2022, mais sur 4-5 lignes de crédit, mais il y avait même des retards, mais ils vont dire, OK, non, ben pourquoi?
Ouais.
Fait que vraiment l'histoire autour, ouais, parce qu'en bout de ligne, c'est comme, c'est un humain qui prend une décision, genre, mais dans la banque, OK, mais est-ce que c'est un risque pour nous? Est-ce que c'était isolé ou c'est juste parce qu'il n'est pas capable de venir gérer du crédit? Fait que c'est sûr que l'histoire va...
Ben, en même temps, si t'es l'institution financière, tu vas te débarrasser de ton crise de bain de glace, là.
Ouais.
Ben, dans ce cas-ci, oui.
Ben, je pense qu'il va se dompter tout seul. On te garde avec nous, mon cher PC. Nos auditeurs ont plein de questions pour toi. Il y a une question qui vient juste de rentrer, PC. C'est Mathieu Brodeur qui nous l'envoie. Faites comme Mathieu sur le 96.9, 96.9. Envoyez-nous vos questions. On lui pose la question de Mathieu. Je la trouve intéressante. Un prêt hypothécaire à taux pondéré. Est-ce possible d'utiliser ce type de méthode pour aller chercher du financement supplémentaire sans devoir passer chez le notaire? Qu'est-ce qu'un taux hypothécaire à taux pondéré? C'est la première fois que j'entends ça.
Ouais, un taux pondéré, c'est quelque chose que le monde n'a pas souvent tendance à venir connaître parce qu'il y a, comme deux façons d'obtenir soit de l'équité supplémentaire. C'est un, faire une deuxième tranche, ce qui veut dire que si t'as, on va dire, un 100 000 à 2 % genre, de taux d'intérêt,
ouais,
tu pourrais faire une autre tranche de 100 000 au taux du jour. Fait que c'est deux hypothèques qui sont vraiment séparées, mais rattachées les deux à ta maison. Mais un taux pondéré, c'est carrément qu'on va venir mettre ensemble les deux hypothèques. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir deux hypothèques de 100 000, tu vas avoir une hypothèque de 200 000 qui vont finir à la même date. Ce qui veut dire que, mettons que ton terme, il reste 2 ans, mais ça va finir dans 2 ans.
Ouais.
Mais exemple que t'as ton 2 % puis le taux du jour, c'est 6, ils vont faire la moyenne des deux.
Okay.
Ce qui veut dire qu'ils vont prendre.
Fait que lui, peux-tu s'en servir, Mathieu, comme méthode de financement sans passer chez le notaire?
Ben là, ça, c'est que ça dépend comment que l'acte hypothécaire a été enregistré. Fait que c'est plus que juste une histoire de on va regarder, okay, voir si ça peut nous faire sauver de passer chez le notaire.
Ça serait pas un chemin automatique. Oui, okay,
c'est pas automatique. C'est pas
OK. Une autre question, c'est bonjour PC. Si on rappe pour une maison, sommes-nous obligés de rembourser le rap au même endroit où nous pouvons prendre un REER à un autre endroit? Mmh. Et c'est Loud qui pose la question, j'imagine.
Ben, techniquement, c'est que si tu rappes des REER, c'est que tu le prêtes avec une institution financière. Fait qu'exemple que tu avais, je sais pas moi, ben 20 000 avec Desjardins, c'est sûr que le 20 000 qu'il va falloir que tu rembourses, c'est avec eux. Est-ce que tu peux prendre quand même d'autres REER ailleurs? La réponse est probablement cool.
Ben oui.
OK. Ouais.
Okay. Y a quelqu'un qui nous a écrit puis qui voulait garder l'anonymat. Il pose la question: est-ce que c'est possible d'avoir une lettre d'approbation de la part d'une banque, même s'il manque des documents importants qu'on doit remettre par la suite?
Tout dépendamment de la banque avec laquelle tu vas faire ta préqualification, tu vas avoir des institutions financières qui vont mettre que c'est conditionnel à la réception de la documentation. Fait qu'il y a même des banques qui viennent demander aucune documentation, mis à part qu'ils vont regarder le bureau de crédit, fait qu'ils vont se baser sur ce que tu as dit. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment de fournir la bonne information, parce que même si tu as une lettre de préapprobation, ça veut pas dire qu'un mec survienne avec, mettons, ta promesse d'achat. Si tu as fourni vraiment comme de l'information qui est erronée, ça veut pas dire nécessairement que ça va fonctionner.
Puis sûrement pour ça aussi, les préapprobations, tu sais, que tu peux faire en une minute sur un site Internet à part de même.
C'est
là.
Ça. Ça vaut ce que ça vaut. C'est sûr que t'es mieux vraiment de parler avec un conseiller ou un courtier.
Mais
oui. Et il y a Mathieu Arès de Candiac. Il dit, j'ai une question pour PC. J'ai acheté un condo en 2022 à préfixe 5 ans. Comment calculer facilement la pénalité si je décide de vendre avant la fin du terme en 2027? Et si je vends pour racheter une maison avec une plus grosse hypothèque, est-ce que la banque peut payer ses frais?
La pénalité, c'est
très tough. Bonne question. En fait, c'est que maintenant que ça fonctionne pour un taux fixe, c'est extrêmement difficile de calculer sa pénalité soi-même. Fait que, pourquoi? Parce que c'est basé sur le différentiel de taux qu'on va pas rentrer là-dedans.
Non,
c'est trop complexe. Mais, par contre, la meilleure façon de faire, c'est que tu appelles ta banque, tu dis, si je vends ma maison demain puis que j'ai pas d'autres hypothèques, par exemple, ma pénalité va être de combien? Fait qu'ils vont, eux, ils vont être capables de dire en date d'aujourd'hui, c'est combien? Parce que aujourd'hui puis dans 6 mois, ta pénalité peut être complètement différente. Mmh. Puis, est-ce que la banque va payer les frais? Pour être franc, il n'y a pas tant de cadeaux. Ce qui veut dire que ça se peut que s'ils couvrent une partie, c'est peut-être parce que sur ta nouvelle hypothèque, tu as peut-être un taux qui est un peu moins avantageux. Mais par contre, si jamais tu as vraiment une plus grosse hypothèque sur ta nouvelle maison, tu pourrais transférer la tranche.
On dirait qu'ils veulent l'attirer par ça. Là,
ouais, c'est
moi, je pars de plus petit, je vais grossir, je veux rester garder ma clientèle chez vous. Est-ce que vous êtes capable de m'aider? Ça, c'est...
La meilleure façon pour venir sauver les frais de pénalité serait de transférer cette tranche-là sur la nouvelle propriété. Fait comme ça, il ne paierait pas nécessairement de pénalité. Puis là, il pourrait faire justement soit un taux pondéré ou une deuxième tranche pour la balance de financement qui manque.
OK, hey, mais c'est très intéressant. Ouais, PC, vraiment. C'est le temps qu'on avait. Merci infiniment d'être venu nous voir, comme à chaque jeudi. PC Joliguerre qui est là. Continuez d'envoyer vos questions parce qu'on les prend en note pour nourrir la bête. Et vous êtes vraiment, vous en avez des questions, c'est impressionnant. Et on en apprend à toutes les semaines.
Le podcast Debout les comiques.
Ah là là, un classique parmi les classiques au 96.9. C'est quoi? Sarah Dufour va nous raconter sa première brosse. Sarah qui est en feu un matin.
Ouais. En fait, j'ai décidé de... on part dans une série là pour quelques semaines qui va... Je retourne dans mes souvenirs de jeunesse.
Okay.
D'adolescence, si on peut dire de même. Et là, je me suis dit, ben là, c'est sûr que je ne peux pas passer à côté le fait de vous conter ma première et probablement ma plus grosse brosse à vie. Donc, on retourne à l'adolescence, dans les premières brosses. J'étais ado, et ben quand tu viens d'une région, ben tu sais, tu sors des fois avant que t'aies l'âge. Donc j'étais adolescente, je sors au Bonnet Rouge de Mistassini, qui est dans ma ville, et le Bonnet Rouge...
Ça faisait pas quartier, là.
Ça, c'est en face du dépanneur Pierrette, non?
Ouais,
c'est
ouais.
En face du dépanneur Pierrette, la bâtisse a été démolie, c'est rendu un dolorama. Oui, exactement, et ça appartenait jadis à mon oncle André. D'ailleurs, le dépanneur Pierrette, ça s'appelle même à cause de ma tante Pierrette. Bon, peu importe. Mais quand que moi, je suis allée veiller au Bonnet Rouge, il était plus propriétaire. Tout ça pour dire que la soirée bat son plein. Et là, un moment donné, je fais un face-à-face avec Piton. Piton, c'est un de mes chums de Girardville. Girardville, dans ce temps-là, ils appelaient, c'était nos amis de Girardville. On les appelait les gars de motocross. Okay. Parce que les autres, on montait sur le pouce à Girardville puis on allait triper avec les gars de motocross. Et là, je croise Piton. Et Piton me croise, tu sais. Puis là, Piton, il me dit, « Hey! Ça va au bord! » Il revient avec un plateau de shooter de tequila bang bang.
Ouch.
Il y en avait 6 dedans. Il dit, « Dufour! » Il dit, « Tu te lèves pas d'ici tant que t'es pas tout bu. » Moi, quand tu me mords de fille, il y a de quoi qui embarque dans ma tête qui fait comme, « Check-moi bien, man! Un sushi game, tu sais! »
Mais là,
fait que là, l'affaire que j'ai pas mentionné, c'est que moi, j'ai 3 grosses bières de prix, là. Parce qu'on se rappellera que dans ce temps-là, il n'y avait pas de bière de microbrasserie. Et ben, quand tu sortais, c'était de la grosse bière, tu sais. Ouais. Et moi, avec 20$, je prenais une brosse, là, tu sais. Ouais. Parce que la grosse bière coûtait 4,50, je laissais 50 cents de type. Fait que là, j'étais déjà bien avancé. Fait que demain, tu peux en prendre.
4 bières.
Ouais, fait que là, j'en avais 3. Le prix. Fait que j'étais déjà quand même pas pire avancé. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, ça va bien. Et là, je dis à Piton, parfait, je t'éclenche. Sur les 6. Là, le tequila bang bang, on se rappellera que c'est le sel, le citron, toute la passe.
Le petit rituel.
J'en ai échappé un sur le côté que je n'ai pas bu, mais j'en ai quand même bu 5. Puis pendant la première demi-heure, je me suis pas levé, je jasais avec Piton, puis je me disais, Colin, je porte bien ça, l'alcool. J'étais comme toute là. J'étais toute là, tu sais.
Le train s'en venait.
Quand il est venu le temps de me lever pour aller aux toilettes. Hey, je me suis levé, là, j'ai même pas été capable de faire un pas. Je suis tombée la tête première sur le plancher et je me rappelle le restant de ma soirée, c'est un peu flou, mais chaque pas que je faisais me prenait environ 30 secondes. OK, là, j'ai fait un pas. Là, après ça, j'en faisais un autre et ma sœur, 2 ans plus vieille que moi, qui était responsable de moi ce soir-là, à un moment donné, elle vient me boire, elle dit, ben là, Sarah, dis-moi, je m'en vais parce que nous, on habitait dans le fond d'un rang. Mais quand on allait en ville de même, ma grand-mère habitait à peu près à 1 km, tu sais. Elle dit, moi, je m'en vais, tu sais. Ah, j'ai dit, moi, je suis pas prête à m'en aller, tu sais, ben, va-t'en. Puis il y a un de nos amis qui a dit, parfait, j'irai la porter, tu sais. Il a vu que j'étais comme pas prête.
Fallait te transporter, là.
Ah, c'est ça, exactement. Fait que ma sœur, à part. Et là, pendant toute la soirée, c'est ça. Bref, à un moment donné, 3h du matin, il arrive. Et là, le gars, David, David, qui est rendu police aujourd'hui, il dit, viens, je vais aller te porter. Et je me rappelle qu'à chaque 20 pas, je me pitchais dans la pelouse. Attends pas.
Oh mon Dieu, ça va être agréable de ramener.
Oh.
Puis là, tu sais, lui, il m'attendait, mais tu sais, je le voyais bien qu'il était à bout puis qu'il avait rien cadre que ça finisse, tu sais. Puis, même dans lui, je me disais bien qu'il devait dire, tu sais, pauvre petite, tu sais, je peux pas laisser une petite fille de 13 ans revenir à pied tout seul en revenant d'un bar à 3h du matin.
Attends, mais t'avais quel âge?
C'est ça que je viens de dire.
Elle vient de dire 13 ans.
Attends, mais t'avais quel âge?
J'avais 13 ans. C'est ça. Bref, c'est pas des
Sarah,
jokes en plus.
Pour vrai, t'avais 13 ans.
Je sais, ça n'a pas de bon sens. Je suis quasiment gênée de dire ça, Étienne. Mais grandir en région...
À la campagne,
ça n'a rien à voir. Mais...
Ouais.
Je suis comme inquiète.
Il y a d'autres affaires que je pourrais te compter que tu serais comme... Moi, j'ai arrêté de sortir des bars à 18 ans. Mais...
On a besoin de... On va continuer de vous jaser dans un instant. On va jaser avec Mélissa dans quelques minutes, la première brosse à
Martin,
vie.
Martin, j'ai pas fini! Tout ça pour dire qu'il m'amène. Il m'amène en avant chez ma grand-mère. Et là, je m'assois dans les escaliers. Puis là, quand il voit que je t'assieds dans les escaliers, lui, il dit, il s'en va, tu sais. Et là, quand j'ai réussi à monter les trois marches de sa galerie et que je m'ai fermé, mais j'ai fermé les yeux pour la première fois, et là, ça, le tourbillon a décollé. Et là, j'ai fait, oh, OK, là, ça va pas bien. Je me suis jamais rendue à la chambre où je devais aller coucher. J'ai juste ouvert la porte, je me suis couchée sur le divan rentrant. Et le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, là, ça part, cette affaire-là. Oh. L'envie de vomir, tu sais. Et je me rappelle, j'étais tellement malade, la poubelle était pas assez grande pour recevoir tout ce qu'il y avait à sortir. Et c'est quand ma grand-mère a s'est levée. Là, j'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens, je veux pas que ma grand-mère me voie demain. Mais quand elle m'a vue, à part à rire.
C'est sûr.
Elle dit, tu veux ça, jus de tomate, quelque chose? Ma grand-mère, je vais vous le mentionner, c'est une alcoolique aguerrie et très ferrée. Et je sais pas c'est quoi vos remèdes de grand-mère, vous autres, qui vous diraient, là, mais la mienne, tu sais, à la fin de sa vie, elle buvait du 94%. Elle avait un verre de 94% sur sa table de chevet. Puis elle me dit, prends-nous une bonne bière, là, ça va te replacer.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.